Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo, on parle de consoles, de PC, de mobiles, de l'industrie, on vous résume tout ce qui est important à retenir dans ce monde merveilleux du gaming et on vous met une petite dose d'analyse en plus et j'espère une petite dose de sympathie en bonus. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis accompagné de deux co-animateurs de talent et d'humour. Attention, je fais des promesses aux auditeurs de l'émission, j'espère que vous en serez dignes. J'ai nommé Jean de Papa à quoi tu joues, Jean-Noël, comment ça va Jean ?
Bonjour, ça va, mais je n'habite pas talent.
Je suis pas sûr de comprendre la blague là.
Tu as dit deux co-animateurs de talent.
Ah, d'accord. Et en plus, voilà. comme notre autre co-animateur, Hugues Agius, nous vient de Talence.
Et oui, c'est ce que j'allais dire du coup. Par contre, moi, je suis de Talence, oui.
Oui, de Talence et pas de talent. Donc, aucun de vous deux n'a vu de talent. Franchement, déjà, dans les premières minutes, vous placez la barre très, très haut au niveau de la blague. Oui, oui. Non, mais je suis impressionné. Ben, merci à vous deux de rejoindre l'émission. Bon, Jean, t'as été là plusieurs fois déjà. Donc, animateur, enfin, créateur du podcast Papa à quoi tu joues, où vous concentrez sur les jeux auxquels on joue quand on a des petits-enfants dans sa
voilà.
vie.
Et qui nous laisse le temps de le faire.
C'est ça. Et on a Hugues, alias Captain Hugues, qui nous vient de l'écurie Renegade, Studio Renegade.
Oui, attention. Hein.
Oui, pardon, j'ai failli dire un autre mot, c'est ça ?
Oui.
ça y est, la transition est opérée, donc, de l'écurie Studio Renegade. Il est encore derrière toi, Cédric, ou il est parti ?
Non, il est parti.
Ah, d'accord. Bon, bah, on lui fait des bisous quand même. On a beaucoup de choses dont on va vous parler aujourd'hui. On a les annonces sur Black Ops 4 qui nous a réservé quand même quelques surprises, qui n'étaient pas vraiment des surprises, mais quand même. On a le service en ligne de Nintendo qui a été annoncé avec ses détails. On a plein de rumeurs sur les jeux de l'E3. On a une manette de la console Xbox, une manette adaptative qui sera extrêmement utile pour les joueurs handicapés. Et on va vous détailler tout ça. On a aussi plein d'autres choses dont on va parler. Enfin, je vais pas tout détailler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, plutôt que de dire ce dont on va vous parler, on va directement commencer à en parler avec Black Ops 4. Ils ont fait un petit stream il y a quelques jours de ça chez Activision pour nous présenter le jeu qui sortira en octobre. Il y a des choses qu'on attendait, des choses qu'on n'attendait pas forcément. Déjà, qui parmi vous s'est tapé le stream entier ?
Oh non.
Non.
Bon, je vous pose la question. Je vous pose la question, c'est pour que je puisse dire que moi, par souci de professionnalisme, je l'ai fait. Je ne suis pas un grand joueur de Call of. Mais quand même, bon, je vous avoue que c'était quand même relativement intéressant. Hein. C'est un énorme mastodonte de l'industrie. Il a été le plus gros pendant de nombreuses années. Bien sûr, aujourd'hui, il est un petit peu moins gros qu'il ne l'était à une certaine époque. Mais c'est quand même intéressant de voir comment... Pardon, j'ai eu une nuit difficile. Comment il gère la continuation de la vie de cette grosse licence. Et alors, pour pas continuer le suspense, il n'y a effectivement pas de jeu solo, de campagne solo, comme on s'y attendait d'après les rumeurs qu'on avait entendues ces dernières semaines. Par contre, il y a trois modes multijoueurs, trois modes différents qui ont l'air quand même assez riches. Il faudra voir quand on aura les premiers retours, mais il y aura le mode multijoueur classique qui a l'air assez étoffé. On aura le mode zombie qui lui aussi est extrêmement étoffé. En fait, le mode zombie lui-même, c'est trois différents modes de jeu inclus dans le mode zombie. Et on a aussi le mode blackout qui est ce fameux mode battle royale qu'on pouvait voir venir à 60 km et qu'ils n'ont pas énormément détaillé. Ça, je pense qu'on aura plus d'informations à l'E3. Ils se sont réservés peut-être pour la conférence Sony, par exemple, j'imagine, à moins que Microsoft ne soit ceux qui payent pour l'exclusivité du partenariat marketing et peut-être un petit peu de contenu, mais a priori, c'est avec Sony qui travaille maintenant. Il y aura peut-être une plus grosse, plus de détails pendant la conférence Sony, mais en gros, il y a trois gros piliers à ce jeu. Pas de campagne solo, mais trois modes multijoueurs qui ont l'air assez riches et assez fournis. Alors, ils ont dit qu'il y aura des intégrations de narration solo dans les modes multijoueurs pour vous expliquer d'où viennent les persos, etc. Bon, on imagine que ça ne sera quand même pas l'attrait principal de ces modes-là. Alors, c'est quand même significatif que Black Ops abandonne le mode solo. Ça a été pendant très longtemps le jeu principal pour Call of Duty. Et puis, petit à petit, le mode solo, enfin, à vrai dire, depuis très longtemps, le mode solo est devenu hyper important. Et aujourd'hui, il semble qu'il représente l'essentiel du jeu. Déjà, première réaction par rapport à ça, abandon du mode solo, richesse des modes multijoueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vas-y, Hugues, lance-toi.
Alors, oui, moi, alors j'ai l'impression que ce Black Ops, ça va être un gros pot pourri, en fait, de tout ce qui a marché jusque-là, plus le mode zombie, qui se dirige vers un jeu sans solo. De toute façon, c'était annoncé depuis un moment. Je trouve ça même dommage qu'en fait, qu'il appelle Black Ops 4 et pas tout simplement, peut-être un autre nom plus significatif d'un Black Ops, peut-être, ou un Call of Duty multiplayer total. Bon, c'est l'évolution de l'industrie, hein, de ce style de jeu qui se veut de plus en plus multi. Après, voilà, moi je faisais pas trop les camps. Alors moi je fais partie des gens qui quand j'achetais des Call of, je faisais pas trop les campagnes solo, je faisais plutôt le multi. Donc bon, j'y joue plus depuis un petit moment. Mais voilà, c'est moi ça m'attire un peu, mais de loin maintenant parce que je suis passé sur d'autres styles de jeu. Donc
Justement, voilà. Tiens, déjà, est-ce que tu joues à PUBG ou Fortnite?
Alors moi je joue à PUBG et un petit ouais moi je dis PUBG du coup oui ouais. Je dis la française et je joue un petit peu à Fortnite ouais.
Parce que moi je suis pas un gros joueur, j'ai joué un petit peu à Fortnite mais pas énormément. Est-ce que du coup le mode Blackout qui est ce mode Battle Royale, ça t'intéresse, ça t'intrigue ou pas du tout sur
Oui, ça m'intrigue un peu parce que oui hein, quand on fait du Battle Royale, on est toujours à la recherche du nouveau Battle Royale et c'est vrai que là l'avantage et j'en discutais encore ce matin avec Cédric. Là, c'est vrai que ça va être un gros éditeur qui va se mettre, qui met la patte dedans, qui veut faire un Battle Royale un peu plus réaliste, un peu dans la lignée d'un PUBG, sachant que PUBG est quand même sorti il y a maintenant un petit moment et qu'il est toujours rempli d'autant de bugs graphiques ou autres. Là, se dire que peut-être on va avoir enfin un Battle Royale AAA, ça peut être intéressant. Ça intéresse quand même un petit peu de loin, ça m'intéresse un petit peu.
Ouais. Ouais, bon, il y a bien sûr les questions qui se posent sur le fait que ça soit un mode parmi trois ou en fonction de comment on compte cinq ou six autres. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à avoir assez de joueurs pour rendre ça, pour pouvoir lancer les parties rapidement, etc. Bon, s'il y en a un qui peut y arriver, a priori, c'est quand même Call of Duty parce que ça reste une grosse licence. Jean, toi, est-ce que tu étais plutôt solo ou plutôt multi sur Call of?
Moi, si il y avait une chance un jour que je retouche à un jeu de ce genre-là, c'était bien avec un mode solo. Donc là, ils m'ont perdu définitivement.
Mais tu sais, c'est marrant.
Je joue aussi à PUBG. Ouais.
C'est marrant parce que tous les gens qui disent ah ouais, moi je suis plutôt solo en fait sur ces jeux. Tous les gens qui disent ça, ils continuent la phrase en disant mais bon, de toute façon, j'y ai pas joué depuis 3-4 ans. Tu vois, c'est
ouais,
vraiment.
J'ai quelques épisodes, alors je sais plus si c'est Call of ou Battlefield, dans ma bibliothèque Steam que je vais probablement un jour j'espère.
Alors, ouais, alors ça, c'est, on sait tous comment ça marche. Hein.
Mais non, mais pour de vrai, parce qu'effectivement, moi, ça fait pas 3-4 ans que j'ai touché un Call of, ça se compte en dizaines d'années.
D'accord.
C'est
ça se compte en âge de tes enfants, en fait, c'est ça le truc.
Non, ah, ça ferait 5 ans. C'est pour ça que je me dis que je les ferai obligatoirement un jour, ne serait-ce qu'un épisode, c'est peut-être le plus récent. Mais c'est pour vraiment voir, parce que je regarde des streams et des vidéos, mais pour voir vraiment où en est la série, parce que de ce que je peux en voir, c'est le mode solo, c'est quand même quelque chose au niveau mise en scène et c'est un beau spectacle, même si l'histoire n'est pas folle.
Je te réinterromps, excuse-moi, mais c'est ce que dit tout le monde, mais tous les gens qui n'y jouent plus. C'est exactement ce que... Il y a quelques personnes qui y jouent. D'ailleurs, il disait, alors on va croire les chiffres si on veut, mais c'est les chiffres qu'il donnait. Il disait, au lancement du multi, le multi représentait 10% et le solo 90% du jeu. Aujourd'hui, on a inversé. Le multi représente 90% et le solo 10%. Et moi, je veux bien y croire, parce qu'effectivement, tous ceux qui faisaient du solo, ils disent, ah ben moi, c'est le solo qui m'intéresse, mais... Enfin, comme je disais, mais j'y joue plus depuis 3-4 ans. Donc,
Oui, parce qu'on voit bien aussi l'intérêt qu'on a par rapport à faire une campagne solo avec un scénario de cette qualité-là pour ce prix-là, parce que ce n'est pas des jeux qui sont donnés non plus. Et c'est pour ça qu'on délaisse aussi c'est l'investissement. Est-ce que l'investissement vaut le coup ? Non, on attend que ça baisse, on attend tellement qu'on l'oublie. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas fait depuis plusieurs années.
Je ne touche pas au
et je sais que le multi, je ne vais fatalement pas y toucher parce que simplement je ne suis pas assez bon, j'ai pas assez de temps pour être assez bon pour prétendre à m'amuser dans ces parties multijoueurs.
Alors, ils ont bien précisé qu'ils allaient avoir des modes, suffisamment de modes pour que les débutants puissent s'amuser aussi et des choses à faire pour les débutants. Moi, j'avoue que ça m'intrigue. Alors, le truc, c'est qu'il y a tellement de bons jeux aujourd'hui que je ne suis pas certain d'avoir le temps de tester un Black Ops 4. Je suis dans la configuration dont vous parlez et dont tout le monde parle. C'est genre, bon, c'est plus trop mon truc. Mais par contre, il donne des choses aux gens qui sont fans de la série. Mais il n'empêche, le mode zombie, moi, m'intrigue un petit peu quand même. Le mode blackout, comme tu le dis, Hugues, un triple A qui soit enfin bien léché en mode un petit peu réaliste. Bon, c'est le réalisme de Call of, mais quand même. Et puis le multi, pourquoi pas réessayer un petit peu. Moi, étrangement, je me dis, les campagnes solo. En fait, le truc, c'est que les trucs solo, il y a des jeux qui le font mieux que ce que je peux espérer d'un Call of Duty récent. Donc, si je veux un jeu solo, j'ai d'autres choses à me mettre sous la dent. Alors que le multi, c'est une des forces de Call of Duty et peut-être y remettre un petit orteil, même si c'est pour jouer 5, 10 heures, 20 heures. Je ne vais pas forcément en faire mon jeu auquel je vais jouer toute la vie. Mais là, il y a peut-être suffisamment de variété et de choses à faire pour me dire « Oh, bah pourquoi pas le tester et puis passer 5 heures dans chaque mode ?» ça serait pas plus court qu'un jeu dans lequel je passe 15, 20 heures de toute façon. Donc, je me dis peut-être, pourquoi pas. Il y a une étude qui est sortie, alors qui étudie que les jeux Xbox, donc c'est un petit peu particulier, mais qui montre à quel point les joueurs ne jouent plus aux campagnes solo. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais en gros, ça confirme ce qu'on semblait sentir dans l'industrie, c'est que les jeux solo sont moins intéressants que les jeux multi aujourd'hui. Moi, je remettrai peut-être en question la conclusion parce que, bon, le fait de regarder que les jeux Xbox, c'est vrai que ça n'a pas été les jeux solo les plus éclatants ces derniers temps. On en a eu plus sur PlayStation, donc forcément, si on ne regarde que la Xbox, les résultats sont peut-être un petit peu biaisés, mais d'une manière générale, je dirais que plus que l'idée que les jeux solo sont vraiment moins populaires, ils coûtent tellement cher que c'est plutôt des first party qui les font, et on a une spécialisation, quoi. Les jeux sont soit des jeux solo, soit des jeux multi, mais on ne fait plus vraiment les deux, et chacun fait ce qu'il fait du mieux qu'il peut. Et c'est un petit peu la direction que semble prendre ce Black Ops 4. Et donc, moi, ma conclusion, c'est pourquoi pas. En gros, je suis plus intéressé par Black Ops 4 après cette présentation que je ne l'étais avant. Je me dis, peut-être à tester plusieurs modes solo, ça me donne de quoi picorer. Maintenant, est-ce que ça vaut un jeu plein pot ? si le mode Battle Royale est vraiment aussi complet qu'il semble le montrer, autant que le mode multijoueur classique et zombie, qui vraiment, enfin, si vous avez eu la présentation, il y a énormément de choses à faire, pourquoi pas ? À noter d'ailleurs qu'il sera disponible exclusivement sur la plateforme de Blizzard, donc Battle.net. Il suit Destiny 2, qui était plus, qui avait pas été sur PC, mais c'est assez important pour Call of Duty, puisque le jeu était disponible sur Steam avec Activision qui devait donner 30% à Valve, bien sûr. Donc, ils sont passés sur la plateforme de Blizzard, chez qui ils peuvent se garder 100% des revenus. Forcément, c'est logique. On a eu des gens, des fans de Blizzard qui se sont un petit peu plaints de cette idée de voir l'envahisseur arriver sur les plates-bandes de Blizzard.
Ça fait un peu tâche hein, sur ton Battle.net.
Ouais,
quand
d'accord.
Ouais, je suis un ex-employé de Blizzard, donc j'ai un attachement particulier à la société. Je comprends un petit peu le fait de dire ah ouais bon, ça fait un petit peu c'est pas aussi propre qu'avant, on va dire. Mais en même temps, j'ai vu des réactions tellement désespérées sur Twitter, genre ah mais non sur toi, quel scandale machin. J'ai envie de dire aussi un petit peu de mesure quoi. Oui, ok.
Oui, tout à fait.
C'est pas non plus la fin du monde. C'est une icône en plus sur votre. C'est un logiciel de lancement de jeu, quoi. C'est pas non plus qu'ils sont venus étouffer, égorger votre chien. Calmons-nous. Et j'ai vu des réactions. Bon, bien sûr, c'est Internet. Hein, y a toujours des gens qui exagèrent un petit peu, mais j'en ai vu qui étaient un peu inquiétantes, on va dire. Mais oui, ça fait un petit peu tâche, mais c'est pas hyper surprenant, quoi. C'est clairement. Mais pour la marque Call of Duty, c'est une étape significative. On se demandait un petit peu quand est-ce que Activision allait oser abandonner Steam, parce que c'est là qu'ils ont tout leur communauté de joueurs sur PC. Mais bon, je pense que les joueurs PC, disons qu'ils sont surtout sur console pour Call of Duty, et les joueurs PC connaissent déjà, pour la plupart, Battle.net de toute façon. Donc,
ouais, pour la petite parenthèse, moi j'avais fait une émission thématique il n'y a pas longtemps sur la jeunesse et le jeu vidéo, et justement on a parlé de des FPS et de leurs épisodes à répétition, et c'est clairement ce que la jeunesse attend. Le solo, ils sont tous, mais alors royalement, et ils attendent annuellement leur nouvel épisode pour faire du multi avec les copains.
C'est comme ça qu'ils le consomment en fait. Hein. Ouais. Solo, c'est bien en fait pour peut-être notre génération, mais la génération d'avant, non, maintenant ce qu'ils veulent, c'est leur mise à jour annuelle de leur multiplayer, et ils vont dans ce sens-là, clairement. Hein,
Par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'ils n'étaient absolument pas contre ce que tu évoquais au tout début, Patrick. Les petits éléments de narration dans le multijoueur, ça, ils aiment bien. Ça rajoute de l'humour et ils sont sensibles à ça. Enfin, ça peut rajouter de l'humour, ça peut rajouter un peu de profondeur et ils sont sensibles à ça.
Ouais, bah ça, on verra comment ça s'est mis en place. Intéressant tout ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est plus multi quand on est plus jeune, et puis après, on s'intéresse un petit peu plus aux expériences plus narratives quand on vieillit un peu. C'est très personnel, enfin empirique de mon environnement, ce sur quoi je me base pour dire ça. Mais j'ai vu plus d'une fois des gens qui disaient ah ouais, je parle de World of Warcraft par exemple. Il y a des gens jeunes qui disaient ah ouais, mais moi je faisais que du PVP avant, et puis maintenant, l'idée de suivre l'histoire, c'était risible, et maintenant j'aime beaucoup la partie quête, etc., et ou dans d'autres jeux, mais bon, peut-être
ces gens ont maintenant des enfants, c'est ça,
c'est possible aussi. Bon, parlons un petit peu de Nintendo, tiens, et de leur service en ligne dont les détails ont été confirmés. C'est un petit peu ce à quoi on s'attendait finalement. C'est leur service en ligne pour la Switch. Alors, la manière dont ça va fonctionner, c'est que ça va coûter en gros 20€ par an. On est sur un tarif qui est un tiers du tarif des autres constructeurs, ce à quoi on pouvait s'attendre parce que forcément, il est difficile d'imaginer de payer déjà l'un des gros constructeurs sur PlayStation ou Xbox et en plus le même tarif à Nintendo. Mais ce que ça propose, c'est les sauvegardes dans le cloud. Donc, c'est un moyen de garder les sauvegardes. Et c'est à noter, c'est le seul moyen de sauver vos sauvegardes, en fait. Contrairement aux autres consoles qui permettent, par exemple, de les sauvegarder sur USB si vous n'avez pas un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live. Ça vous donne aussi la possibilité de jouer en ligne, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut jouer en ligne, mais c'est une sorte de preview du service qui va devenir payant. Donc, on ne pourra plus jouer en ligne sans payer, que ce soit à Mario Kart, à Splatoon, etc. Tout le jeu en ligne ne sera plus disponible une fois que le service sera lancé. C'est en septembre, je crois. Et en plus de ça, ces 20$ par an nous donnent aussi droit à 20 jeux NES qui seront un petit peu augmentés avec du jeu en ligne, justement. Et c'est bon, c'est des bons jeux NES. Hein, c'est genre Super Mario... Mario Bros, Super Mario Bros, Legend of Zelda, etc., etc. Et d'autres un petit peu moins intéressants, on va dire. Mais dans l'ensemble, ça fait un package qui, je pense, pour 20€, ça peut se justifier. C'est quand même... Si ils amènent un jour des jeux Super NES, là, je me dirais, ok, super, j'achète tout de suite. Aujourd'hui, je pense que je suis plus dans une configuration... Bon, bah, le jour... où il y aura un jeu qui sort sur Nintendo Switch auquel je veux jouer en ligne, eh ben, je vais me prendre l'abonnement et à partir de là, je crois que je vais oublier de l'annuler, quoi. Parce que bon, 20€ par an, ça passe. Mais je pense que je vais pas me jeter dessus, mais je suis dans cette configuration. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On redonne la parole à Hugues, tiens.
Moi, je vais être obligé parce que étant un gros joueur quand même de Mario Kart et un petit peu de Splatoon, donc je vais un peu me sentir obligé de le prendre. Donc, va falloir passer à la caisse, mais donc oui, c'est 20$ et il y a aussi la version famille qui est aussi super intéressante aux alentours de 35$, je crois, et qui permet d'avoir 7 consoles. Donc, c'est aussi, il s'aligne aussi sur ça. Et je trouve le prix comparé aux autres, que ça soit Xbox ou PlayStation Network, où le prix est vraiment plus élevé, moi je le prendrais clairement à la caisse. C'est pas pour les jeunesses, mais oui, je serais obligé
pour le jeu en ligne, quoi.
Ouais, pour le jeu en ligne.
Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, d'une part, sur la question de l'abonnement famille, il y a des détails qui ne sont pas encore très clairs, je crois, parce que sur la console, sur les autres consoles, donc PlayStation 4 et Xbox One, quand on a un abonnement sur la console, bah, tous les comptes de la console peuvent l'utiliser. Mais par contre, c'est un abonnement pour un compte. Mais tous les autres comptes peuvent aussi l'utiliser sur la console sur laquelle le compte est installé. Sur la Switch, étant donné que c'est une portable et que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont utiliser d'autres consoles, on ne sait pas exactement comment ça va marcher si on n'a qu'un seul abonnement. Ces détails-là ne sont pas très clairs. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, c'est vraiment tout bénef pour Nintendo parce que c'est un service qui était gratuit jusqu'alors et que même si un quart des possesseurs de Switch prennent cet abonnement, bah c'est de l'argent qui va rentrer en plus dans les caisses. Ils n'ont pas de raison, étant donné que c'est le standard aujourd'hui, pas de raison de se le refuser, en notant également qu'on peut espérer que ça permette d'avoir un service qui soit d'un petit peu meilleure qualité que ça n'a été le cas jusqu'à aujourd'hui sur les consoles Nintendo, même si il faudra toujours utiliser l'application sur mobile pour chatter, etc., ce qui est peut-être une question de design pour éviter que les enfants ne soient sur les trucs de chat trop facilement, mais... Vas-y, Hugues, et puis on donne la parole
à... Oui, c'est clairement ce que j'allais dire, parce que actuellement, c'est vrai, le service en ligne n'est pas de grande qualité. C'est vrai qu'il y a des connexions fréquentes, et même quand on joue en... Parce que moi, j'ai un dongle sur ma Switch, et ça me permet de jouer directement en Ethernet. Mais c'est vrai qu'on se déconnecte assez souvent, donc ils ont vraiment intérêt à passer le cap et à rendre le jeu en ligne tout simplement stable.
Plus fiable, oui, plus stable. Moi, je pensais même carrément à toutes ces... Ce qu'ils ont commencé à faire, hein, il y avait plein d'identifiants différents, il faut les réunir sous un identifiant, faire qu'on comprenne comment ça marche, avoir la possibilité de retélécharger les jeux qu'on a téléchargés facilement. Enfin, c'est la possibilité de sauver
les... d'aller dans le store pour le faire, c'est un peu barbare.
Jean, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc? Comme t'es...
Moi, je suis un peu un vieux con. Oui, mais je suis un peu un vieux con là-dessus, moi. Je me suis très bien passé de PSN jusque-là. Je suis pas assez client de fonctionnalités en ligne pour être... pour me dire... Bon, alors déjà, j'ai pas de Switch, j'ai encore résisté.
Tu fais partie de ces gens-là. D'accord. Oui, je fais tu fais pas partie des clients d'aujourd'hui, mais des futurs clients, en fait. C'est ça, le truc. D'ici un an, tu y seras passé.
Écoute, probablement, puisque d'ici un an, ma fille aura 6 ans et je pense que
donc il sera
le
temps.
Ouais, voilà. mais clairement, non. Moi, je prendrais pas même à 20 euros.
Sauf que, tu sais quoi, le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de moyen de sauver les parties. Et la Switch, c'est une console semi-portable. Donc, le danger de la perdre est beaucoup plus grand, enfin, de perdre tes sauvegardes parce que tu perds la console, est évidemment beaucoup plus grand qu'avec une console de salon. Donc, pas prendre cet abonnement, tu risques de perdre tes sauvegardes beaucoup plus facilement, quoi. Moi, c'est dangereux. Non, tu t'en fous, ok. D'accord.
Ah bah, complètement, parce que moi, quand je finis un jeu, c'est rare que je revienne dessus après, hein.
Mais si tu le perds, si tu la perds pendant que tu es en train de jouer et que tu es à la moitié, tu as déjà passé 30 heures.
Voilà. Oui, quand tu es collectionneur, ouais, ce que tu dis, oui, effectivement. Mais OK, je perds ma sauvegarde, bah tant pis.
Bon, t'es un cas particulier, je pense quand même. Déjà, t'as pas de Switch, donc t'es un cas particulier. Oui. Mais...
Forcément. Non, mais c'est... Après, l'abonnement familial et tout ça, non, je trouve ça très bien. C'est juste que personnellement, je passerai pas par là. Voilà.
Bon, parlons un petit peu des leaks et des rumeurs de l'E3. Alors, il s'est passé un truc, comme ça arrive parfois, une grande enseigne de distribution, en l'occurrence Walmart au Canada, a mis en ligne des placeholders. Comment ça se dit placeholder en français? Des temporaires. C'est des images et des noms temporaires jeux qui devraient être annoncés à l'E3. Et ils les ont mis en ligne au lieu de les garder dans leur système. Donc, au début, on a vu ça, il y avait des trucs comme Splinter Cell, Gears of War 5, un nouvel Assassin's Creed qui pourrait vouloir dire que, du coup, on ne va pas attendre 2 ans comme c'était le cas avec Horizon, à moins que ça soit une sorte de... Enfin bref, on va en reparler. Forza Horizon 5 au lieu de 4. Donc ça, c'est peut-être une erreur. Borderlands 3, Destiny Comet, qui serait l'extension, la vraie extension de Destiny, pour Destiny 2. Et Rage 2, qui est vraiment un truc sorti de nulle part. Rage 2, personne n'attendait la suite de Rage, qui est un jeu de id Software de 2012, je crois, quelque chose comme ça, qui n'avait pas connu un succès fulgurant, on va dire. Et donc, les gens étaient un petit peu sceptiques. Et puis tout à coup, Bethesda a vu ça et ils se sont dit « Ah bah merde, bon bah Rage 2 est sorti du poulailler, donc on va en parler. » Et ils ont commencé à communiquer sur Rage 2, à montrer des trailers un petit peu cringy d'ailleurs. Moi, ça m'a paru, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, il y avait un trailer avec des sortes d'acteurs qui jouaient les rebelles. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, Rage, c'est un univers post-apocalyptique à la Mad Max. Donc, il y avait des punks, un petit peu punk néon, enfin punk post-apocalyptique fluo néon, c'est ça, qui faisait genre, ouais, moi je suis super rebelle, je suis edgy, et c'était. Ça ne marchait pas du tout.
Non.
Le jeu ensuite a l'air pas trop mal, mais donc en confirmant ça, ils ont un petit peu confirmé tout le reste. Donc, Splinter Cell, on s'en doutait, Gears of War 5, pourquoi pas, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans tout ça, des choses qui vous ont surprise? Que dites-vous?
Je crois, moi déjà, pour commencer, je crois absolument pas au fait que tout ça soit bien officiel. Comme tu l'as dit, hein, c'est juste des placeholders, donc c'est on le prépare en prévision de que peut-être que éventuellement dans un futur plus ou moins lointain.
Ah, tu penses pas qu'ils ont les infos directement des éditeurs de l'autre?
Je pense qu'il y avait certaines infos effectivement qu'ils avaient, et il y en a d'autres, c'est plus du conseil avisé plutôt qu'autre chose. Quand tu mets, parce que là j'ai la liste sous les yeux, quand tu mets Beyond Good and Evil 2, tu l'auras pas pour cette année, mais forcément quoi. Donc je me dis qu'il y a du mélange un peu de tout ça, The Division 2, Dragon Quest 2,
Rage 2, en même temps ils l'ont pas sorti de leurs fesses, hein. Ils ont eu des infos tu vois.
C'est ça. Donc il y a du vrai et je pense qu'il y a de la supputation aussi. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, attendons le 3 et puis voyons.
Il n'y a rien qui t'excite dans tout ça. Enfin, à vrai dire, on connaissait à peu près tout à part Rage 2. Mais...
Ouais, voilà, c'est ça. Et regarde le nombre de jeux qui sont des suites ou des spin-offs de des voilà, il n'y a pas vraiment de nouvelle IP, quoi.
Oui, bah là, c'est effectivement les trucs qui n'ont qu'on a dans cette liste, c'est sûr. Ouais.
Voilà. Donc
Ouais, Hugues,
voilà,
des
non.
trucs qui t'excitent?
Oui, bah comme de toute façon cette liste, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on s'attendait, à part c'est vrai que Rage 2, c'est un peu le truc sorti de nulle part. Hein.
D'ailleurs, il
Donc
y a une théorie intéressante que j'ai entendue dans le Giant Bombcast qui disait, c'est, comment il s'appelle, Avalanche Studio, qui est derrière Rage 2, et c'est ceux qui avaient fait, bien sûr, Just Cause, et le jeu Mad Max. Et il n'est pas impossible qu'ils étaient en train de faire un jeu Mad Max 2, et suite au problème qu'il y a eu entre Warner Bros. Et George Miller pour l'IP Mad Max, ils sont en procès, enfin, c'est très très sale tout ça pour des questions de bonus financiers. Eh ben, ils se sont dit, bah merde, on va pas. Ils ont tout arrêté sur Mad Max et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce jeu qui est déjà aux trois quarts fait? Et oh, bah si on sortait Rage. Et donc, ils se sont dit, on va faire Rage 2, on va le retravailler un peu et ça va être Rage 2 au lieu de Mad Max, Mad Max 2.
Ah oui, parce qu'il a un côté extrêmement
Peut-être.
Mad Max, celui-là, par contre. Hein.
Oui, j'ai trouvé aussi, ouais.
Ouais.
Moi, ce qui m'excite pas mal, enfin, ce que j'aime beaucoup, alors, j'ai adoré cette licence, Splinter Cell, bon, ça avait été déjà teasé dans le dernier Ghost Recon, je crois, où il y avait une apparition
Oui, il y avait un
de
DLC
l'ami
avec
Sam.
Sam Fisher. Ouais.
Et là, le revoir l'écran, et j'aimerais bien qu'ils repartent sur ce qu'ils avaient fait au tout début, vraiment de l'infiltration, comme le 1, le 2 et même le 3 étaient dans cette veine-là. Il y avait vraiment un jeu du chat et de la souris intéressant, et ça pourrait être vraiment. Ils avaient fait aussi des multis à l'époque qui étaient super bien, enfin qui changeaient un petit peu des multis habituels de FPS qu'on pouvait avoir, de TPS. Et donc, moi, ça me plairait un truc qui me plairait vraiment bien.
D'accord, bah,
Il me tarde le 3
effectivement.
pour voir un petit peu la suite, quoi.
Lequel, pardon?
Il me tarde le 3, en fait, pour voir un petit peu la suite. Si Ubisoft, c'est Ubisoft, oui, c'est ça,
Oui, tout à fait,
va l'annoncer. Donc, ça serait. Ouais, c'est le
ouais.
truc que
Donc
j'attends, moi.
Splinter Cell, effectivement. Je voulais dire un dernier truc sur Rage 2. Ah oui, si, le truc que je voulais dire sur Rage 2, quand même, c'est qu'on a été un petit peu dubitatif face à Doom quand il est ressorti, à Wolfenstein quand il est ressorti, et pourtant, ils nous ont sorti des jeux plus qu'excellent. Donc, attendons de voir ce que c'est Rage 2 avant de de le mettre aux oubliettes directement.
Ah oui, il fait très doom aussi sur l'impact des balles. Enfin, c'est le côté, ça fait très viscéral quoi aussi.
Ouais, complètement.
Voilà, ouais, c'est juste le, comme tu l'as dit, le premier teaser trailer où j'étais bien content d'être daltonien parce que ça a dû vous fort piquer les yeux quand même.
Oui, le truc, oh là là, où elle te fait, genre, elle te met des doigts d'honneur avec des balles
Ouais.
de fusil à pompe au lieu des doigts. C'est genre, oh là là, mais non, arrête, arrête.
On dirait un ado qui travaille bien à l'école et qui essaye pour la première fois de se rebeller contre ses
C'est
parents.
ça, non mais exactement, c'est
Exactement.
exactement ça.
Tout à fait ça.
Borderlands 3 serait visiblement pas à l'E3. Alors, c'est un petit peu cryptique. Randy Pitchford était un peu genre oui, si, mais en fait, non, mais si je le dis, on va pas me croire, donc non. Donc, mais bon, visiblement, on verrait pas Borderlands 3 à l'E3. Le jeu a d'ailleurs même pas été officiellement annoncé, à part par les teasings de Randy Pitchford. Enfin, c'est un petit peu le foutoir autour de ce jeu-là. Mais il semblerait qu'on ne le voit pas à l'E3. Sony a parlé de sa conférence à eux. Visiblement, enfin, il montrerait ça, il ferait comment dire, il se concentrerait, voilà, je vais trouver mes mots, sur quatre jeux, que je vous dise pas de bêtises, on parle d'un deep dive et de détails sur Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us et The Ghost of Tsushima, donc quatre gros jeux, quatre grosses expériences solo, d'ailleurs, on parlait des jeux solo tout à l'heure, là on est vraiment en plein dedans. Il y aurait aussi d'autres jeux qu'ils montreraient, mais déjà les années précédentes, ils avaient fait des trucs genre ben on arrive, on dit deux mots, et puis après c'est trailer, 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 trailer. Ils essayent de changer un petit peu la formule hyper marketing de l'E3. Visiblement, là, ils vont encore faire évoluer cette formule. Ces quelques dernières années, les conférences de Sony avaient été mes préférées, donc moi j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir cette année. et visiblement, ils vont faire, comme je le disais, se concentrer sur ces quatre gros jeux. C'est cohérent, puisque bah, c'est des jeux exclusifs à la console, c'est des jeux que ne, va pas avoir, que ne vont pas avoir les concurrents. Donc, comme beaucoup d'autres jeux seront sur, toutes les consoles, ils vont se concentrer là-dessus. Du côté de Microsoft, on va avoir donc visiblement au moins Gears of War 4, dont on espère 5, pardon, Gears of War 5, dont j'espère, moi, comme je le dis depuis des mois et des années, qu'ils vont réussir à faire grandir la série. Et puis, visiblement, Forza Horizon 4, qui s'appelle 5 dans le leak de Walmart, mais c'est sans doute une erreur, qui serait du côté des exclusivités. C'est sympa, mais c'est moins impactant que ce que nous réserve visiblement Sony. Donc, c'est normal qu'ils se concentrent dessus du côté de la PlayStation, quoi. Et puis je voulais vous parler aussi, pour lancer quand même un petit peu des fleurs à Microsoft et à la Xbox, de cette nouvelle manette qu'ils ont présentée cette semaine, qui est la manette adaptative, ça s'appelle Adaptive Controller. Est-ce que vous avez vu les détails de cette manette ? C'est hyper intéressant.
Clairement, ouais, clairement. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis que j'ai fait une émission thématique dessus. Clairement, c'est un truc, on peut même leur lancer plus que des fleurs à Microsoft là pour ce coup-là.
Alors expliquons de quoi il s'agit. C'est une manette en fait qui se présente comme un gros rectangle, un petit peu incliné, sur lequel il y a quelques boutons et puis des gros boutons très très gros qui font la taille, je sais pas moi, d'un
quasiment d'une main.
Ouais, ouais, d'une main, voilà, qui sont des sortes de, si j'ai bien compris, hein, des manettes analogiques. Comme les joysticks que vous avez sur vos consoles, mais c'est les seuls boutons qu'il y a, et il y a derrière une série de 19 ports jack, donc des ports jack classiques, sur lesquels on peut brancher je ne l'ai même pas dit, je crois, c'est une manette pour personnes handicapées, qui va permettre aux personnes handicapées de jouer plus facilement, de mieux jouer. Alors, comme je le disais, il y a ces énormes boutons qui sont des manettes analogiques, et il y a les 19 port jack qui correspondent aux 19 autres boutons de la manette, et vous allez pouvoir brancher des boutons et des manettes et des manières de manipuler spéciales. Ça peut être des pédales, des tubes pour appuyer sur un bouton en respirant, ou des trucs qu'on va se mettre derrière la tête si on n'a pas beaucoup de mobilité dans les mains pour bouger, pour appuyer avec la tête en bougeant la tête. Et vous pouvez brancher pour chaque bouton de la console une manette différente pour contrôler ce bouton. Et il y a aussi des ports USB pour pouvoir brancher des manettes analogiques en plus de ça. Donc, c'est un système entièrement configurable, spécifiquement conçu bien sûr pour les personnes en situation de handicap, pour leur permettre de jouer plus facilement. Et bon, moi j'ai pas de grandes connaissances dans le domaine, peut-être que Jean tu vas pouvoir nous le confirmer, mais j'imagine que ça va être une révolution pour les joueurs handicapés, quoi.
Pour le coup, oui, révolution, le mot est choisi, parce que jusque là si tu souffrais d'un handicap quelconque qui t'empêchait de te servir avec précision d'une manette, qu'elle soit PS4 ou Xbox ou ce que c'est, il fallait devenir le bricoleur du dimanche et pas un petit bricoleur, il fallait devenir assez expert pour pouvoir savoir démonter une manette, la percer aux bons endroits, faire les soudures, etc. Et faire des soudures quand tu es handicapé, c'est pas ça. Enfin, c'était vraiment hyper casse-tête, et en plus, ça revenait très cher.
Il y a des associations qui concevaient des manettes spécifiquement pour, parce que évidemment chaque joueur handicapé est différent et a besoin d'une configuration différente. Voilà. Donc c'était hyper compliqué.
Ben oui, et donc il fallait vraiment donner de la tête à droite et à gauche pour trouver le bon device qui allait machin. Et donc c'était vraiment du bricolage du dimanche expert. Maintenant, on a ça qui va coûter 89€ et tout le reste qui se branche en jack qui va être trouvable très facilement sur des magasins de bricolage, d'électronique, etc. On va pouvoir se faire sa configuration sans avoir besoin de faire à souder, sans avoir besoin d'une assoce qui va nous faire ça à la place, etc. Parce qu'on pouvait très vite, il est absolument pas rare que, étant joueur handicapé, tu te retrouves à jouer à un jeu vidéo, enfin à une console ou sur PC, avec une manette qui valait environ 400 euros. C'était déjà un investissement. Et 400 euros, c'est une moyenne. Donc, plus ton handicap est lourd, évidemment, plus la facture augmente. Là, tous ces petits devices, tu vas pouvoir les trouver facilement en magasin électronique, puisque c'est des choses qui sont qui existent déjà
quasiment.
Il y en a, voilà. Il y en a qui vont être effectivement créés en plus, etc. Mais c'est un écosystème. La prise jack, c'est un écosystème qui existe déjà et qui va faciliter la vie à énormément de joueurs handicapés. Et c'est vraiment une vraie bonne nouvelle. Et Microsoft a vraiment passé beaucoup de temps, parce que ils n'ont pas sorti ça en 6 mois, à consulter justement ces associations, à travailler avec des personnes handicapées et de brasser un maximum de handicaps différents. Et c'est hyper intéressant comme travail, et le résultat est vraiment chouette.
Oui, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus. Il y a tout un tas de trucs intéressants, genre il y a un support pour accrocher la manette de différentes manières. Il y a effectivement tous ces boutons qui sont individuels, les ports USB quand même. Enfin, c'est hyper malin. Ça fonctionne aussi sur PC. Donc, ça ouvre tout un autre univers en plus de jeux sur PC, en plus de la Xbox. Là, c'est vraiment un cas où on aimerait que les autres constructeurs copient ça immédiatement, quoi. C'est je pense qu'on...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ne peut pas trouver de reproche à faire à cette initiative, quoi. C'est une super nouvelle et c'est l'équipe de hardware de la Xbox, enfin de la marque Xbox, qui avait déjà sorti le comment il s'appelle, Elite Controller, qui visiblement est super bien. D'ailleurs, je me demande même s'il faudrait pas que j'en prenne un, parce que tout le monde l'adore.
Très bien.
Ouais. Il est très cher, mais il est très bien. Et donc, là, ils ont travaillé aussi sur cette manette adaptative qui est une super bonne nouvelle également. Donc, voilà. Information, je pense, qui a déjà été hyper diffusée dans les milieux que ça intéresse. Donc, je ne sais pas si vous avez forcément besoin d'aller le dire. Je pense que les joueurs qui sont dans des situations où ils en auraient besoin le savent déjà et ont très hâte que ça soit disponible. Mais c'est
oui, parce qu'on n'a pas la date encore de disponibilité dans le marché.
Ouais. Non,
courant de l'année.
Courant de l'année, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà.
Ça peut aussi servir. Je suis tombé sur un article qui dit que, qui conseillait aussi que pourquoi réserver ça aux personnes en situation de handicap. Ça peut tout à fait servir si tu es parent de 2 jumeaux et que tu as tes jumeaux dans les bras. Tu peux te faire ton setup pour jouer rien qu'avec les pieds pendant que tu t'occupes de tes jumeaux.
Pourquoi pas, effectivement, ça peut être utile.
Oui.
Moi qui ai essayé de jouer en nourrissant mon bébé avec une seule main, c'est pas hyper facile, donc peut-être qu'il y aurait des choses à faire. Là.
Voilà, tu peux jouer avec les pieds.
C'est ça. Donc voilà pour nos gros sujets. On va continuer avec des sujets un petit peu plus rapides. Et je vais commencer avec une réflexion. On va se poser 2 secondes et on va écouter Tonton Patrick qui va livrer sa philosophie. On parlait en fait sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech de Infinity War. Et on en parlait, on disait qui a aimé, qui n'a pas aimé. Et ça a mené à une réflexion que je m'étais fait il y a un moment sur le fait, la manière dont on aborde nos critiques et nos appréciations de jeux et de produits culturels en général, mais de jeux aussi en France. Et je me suis souvenu que je m'étais fait cette réflexion sur la manière dont on en parle en France par rapport à la manière dont on en parle aux États-Unis. Ça peut être surprenant, mais en écoutant les podcasts américains, je me suis rendu compte que la manière dont ils parlaient des films et des jeux était très différente. Nous, en France, on dit souvent « tel jeu est comme ça »,« tel jeu est comme ci » ou « tel film est ceci ». Et aux États-Unis, ils disent généralement « Ah, moi, j'ai trouvé que le film était comme ça » ou « j'ai pensé que le film était comme ci ». Et quand quelqu'un dit Ah ouais, c'est enfin quand quelqu'un a une opinion différente, souvent, alors pas toujours hein, bien sûr, mais souvent, la réaction c'est pas ah mais tu racontes n'importe quoi, il est comme ça, c'est ah c'est marrant, moi j'ai pas du tout ressenti ça. Et j'en ai parlé un petit peu sur Twitter et c'est vraiment drôle parce que les réactions ont été majoritairement de gens qui connaissent la culture américaine. Encore une fois, on ne s'attendrait pas à ce que les Américains soient, je vais dire, on va dire plus tolérants des avis des autres, ce n'est pas l'image qu'on a, mais vraiment dans cette expérience de discussion amicale entre amis, c'est très très clair et toutes les réactions ont été « Ah ouais, mais complètement, totalement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, j'étais complètement comme ça avant de m'immerger dans ces discussions d'un autre type, donc ces discussions faites par des Américains. Et maintenant, je suis mon point de vue a un petit peu changé sur la manière de mener ces discussions. Et c'est complètement vrai, cette analyse que tu as, Patrick. Donc, ça confirme que c'est pas juste moi qui ai eu cette impression. Et il y a eu quelques autres personnes qui, clairement, n'avaient pas été habituées à cette manière de discuter plus américaine et qui avaient une réaction plus négative, qui disaient « Ah non, mais pas besoin de systématiquement préfacer le truc sur mon avis. Forcément, c'est mon avis, donc ça va de prendre des gants pour tout. » C'est pas la peine de se castrer à chaque fois qu'on veut dire qu'on a un avis, quoi, ou qu'on veut dire qu'on pense quelque chose. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout ça l'idée. L'idée n'est pas de se dire « Oh, surtout, je ne veux pas vous offenser, mais moi, j'ai trouvé que... » Non, c'est pas ça. L'idée, c'est simplement d'admettre, en quelque sorte, que la vision d'une œuvre est toujours subjective et nous, on va en penser quelque chose et une autre personne va peut-être en penser autre chose. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des avis forts, et Dieu sait qu'on a des avis fort quand on parle de jeux vidéo et on va continuer à avoir des avis forts, mais je me suis dit peut-être qu'il serait bon de mettre un tout petit peu plus l'accent sur cette idée que si moi j'ai adoré par exemple Céleste, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un d'autre ça lui ait pas parlé et c'est pas parce que pour moi c'est un jeu fantastique, extraordinaire, c'est le jeu de l'année, que ça veut dire que tout le monde devrait l'aimer ou que c'est juste un jeu qui est sans reproche. Enfin bref, c'est une réflexion comme ça qui m'a marqué. Et je pense que je vais faire un petit peu plus attention à l'avenir dans cette émission à essayer de pas être aussi catégorique que peut-être j'ai pu l'être par le passé. J'essaye toujours d'être relativement à dire à mon avis, je pense que machin, les gens s'en moquent presque un petit peu. Mais c'est vraiment une manière d'aborder la critique d'une œuvre qui, moi, me plaît et me parle. Et donc, je vais essayer d'être un petit peu plus dans cette veine à l'avenir. Donc, je voulais juste le mentionner comme ça. Je ne sais pas si ça vous horrifie et vous vous dites non, il faut déterminer qu'il y a une réalité objective sur la qualité d'un film ou d'un jeu, mais...
Pas du tout, je pense que t'as raison, quand tu dis qu'un film est pas bon, t'as un côté où tu fermes la discussion totalement et tu sais pas trop quoi répondre non plus à chaque fois à la personne, alors que quand elle dit qu'elle pense ou qu'elle a trouvé que c'était pas à son goût ou que c'était pas bon, c'est vrai que l'ouverture, on a plus la personne en face a plus sentiment qu'on peut discuter. C'est vrai que il y a un côté complètement fermé quand on dit ça, c'est comme on dit...
Mais c'est exact. Non mais c'est exactement c'est ça,
pas
ces
bon,
gens...
C'est pas bon ce plat, mais non, c'est juste que tu l'as pas aimé en fait.
Ouais.
Mais
c'est le même truc. C'est un exemple que je prends souvent, l'exemple de la cuisine. Exactement ça, c'est genre le film, ah bah non, il est pas bon. Alors oui, bien sûr, on peut dire tel film, il est pas bon, mais quand on commence à en discuter dans un podcast sur le sujet, je pense que effectivement, le film. Ouais, c'est une merde. Oui, c'est marrant. Mais si tu commences à discuter du film, ouais, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, il y a tel truc qui m'a plu, etc. C'est moins catégorique, quoi. Pardon Jean.
Ouais, non, mais, pour revenir sur le côté cuisine, justement, je me suis fait une réflexion il n'y a pas très très longtemps. Pareil, je vais encore parler de mon expérience. Mais quand au collège, j'étais à la cantine et les élèves passaient, et donc il y avait le chef et son second qui distribuaient les plats et certains élèves qui passent et qui disent « Ah non, ah, c'est dégueulasse ça, ah non, c'est pas bon. » Et donc, dès cet âge-là, les chefs font un travail de pédagogie en disant « Tu viens de dire quoi là ?» Et d'eux-mêmes, ils reprennent « Ah non, mais j'aime pas. » Voilà. Et voilà, ça commence vraiment très tôt à la cantine à dire « C'est pas bon » plutôt que « J'aime pas. » Et c'est profondément ancré dans la culture, quoi.
Ouais. Et bon, remettons aussi les choses au clair. Oui, il y a aussi des films qui sont objectivement mauvais, et il y a aussi des plats qui sont objectivement mauvais et des jeux qui sont objectivement mauvais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, oui, ça existe effectivement. On parle en général et pas de cas spécifiques où on peut tous tomber d'accord sur ces faits objectifs, ouais. Bon, parlons un petit peu d'autre chose. Capcom a annoncé qu'ils allaient porter Resident Evil 7 sur Switch. Mais vous me dites, mais comment est-ce possible ? Eh bien,
comment est-ce possible ?
Merci Hugues, j'apprécie. Eh bien, je vais te le dire, Hugues, c'est tout simplement en utilisant la technologie du streaming de jeux vidéo dont on parle depuis longtemps. Ouais. Et c'est une utilisation hyper intéressante. Alors, c'est pas la première fois, ça avait déjà été utilisé pour Phantasy Star Online, si je ne m'abuse. Mais c'est une utilisation hyper intéressante de cette technologie parce que c'est les éditeurs qui peuvent l'utiliser spécifiquement pour porter un jeu sur une console qui ne peut pas le supporter, en fait. La Switch n'est pas assez puissante pour supporter Resident Evil 7. Et bien là, d'une certaine manière, il y a l'édition cloud de Resident Evil 7 qui sera disponible sur Switch. Alors, on n'a qu'à télécharger un petit fichier d'une cinquantaine de mégas. Et ensuite, le jeu se stream des serveurs de Capcom. C'est pas une utilisation à laquelle j'avais pensé. Moi, pour moi, les technologies de streaming, ça a toujours été... c'est un petit peu pour offrir le Netflix du jeu vidéo. Mais en fait... Un éditeur qui fait ça ponctuellement sur un jeu pour une ou plusieurs consoles ou plateformes spécifiques, ça peut être une utilisation hyper maligne. Alors, en l'occurrence, c'est un modèle très spécifique où on va payer un prix relativement modeste de 3 000 yens. Ça fait quoi ? Ça fait 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça ? Je ne vais pas dire de bêtises, donc je vais vérifier.
Non, c'est 2 000 yens, 15 euros.
Ah bah voilà, donc un petit peu plus, une vingtaine, 25 euros. Pour avoir loué le jeu pendant 6 mois. Donc ça laisse bien le temps de le finir quand même, mais c'est juste pour le louer entre guillemets. Là encore, pourquoi pas ? Évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est une utilisation pas bête de cette technologie, je trouve.
Ouais, moi ça m'intéresse. Comme je le disais tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui revient sur ces jeux une fois qu'ils sont finis. Donc ouais, c'est un écosystème qui pourrait être intéressant.
Ouais, et je pense que c'est un petit test de ce type de technologie, et qu'à terme, ils pourraient le tester pour d'autres choses. Bon, évidemment, si ça se généralise, ça change la manière dont on appréhende le jeu vidéo, mais pour les jeux solo, ça peut fonctionner, bien sûr, comme toujours, sur ce genre de truc. Pour un jeu multi, où les réactions doivent être hyper rapides, ça marche pas aussi bien, mais ça peut fonctionner pour un jeu solo. D'ailleurs, en parlant Oui, pardon, Hugues ?
Ouais, c'est clairement le truc, la feature, parce qu'on n'en avait pas pensé sur la Switch, mais en fait, elle serait tout à fait capable, et qu'en plus, le contrôleur qui est bien fourni, ça peut vraiment amener d'autres jeux sur la Switch que ceux auxquels on se cantonne, et même de taper des AAA qui sortent sur les autres consoles.
Exactement.
C'est quelque chose qui est vachement intéressant. Le seul truc, moi, qui me met toujours un petit peu en doute là-dessus, c'est sur la fonction réelle, parce que la Switch ayant un capteur Wi-Fi pas génial. Et je pense que le mieux, ça sera d'y jouer, soit très proche de sa box, soit sur en Ethernet, parce que sinon, on risque d'avoir des petites coupures quand même dans son jeu.
Ouais. Sur un jeu solo, c'est moins grave, on va dire.
C'est moins embêtant.
Et bien sûr, il y a 15 minutes gratuites disponibles avec le truc pour tester que la connexion fonctionne. Donc... et à propos de stream, tiens, il y a Steam qui va sortir très incessamment sous peu, là, le Steam Link... pour les appareils mobiles. Alors, ça va être une app, en fait, qui va vous permettre de l'installer sur votre téléphone à iPhone ou Android et de vous connecter à votre PC, comme le fait un Steam Link classique, matériel. Et bien là, c'est juste une app. Et donc, de streamer vos jeux sur votre téléphone ou votre tablette, ou même, et là, ça devient hyper intéressant, sur votre box, donc votre Apple TV ou votre, je sais pas, Shield... Nvidia Shield ou votre appareil Android connecté à votre TV. Et donc, vous n'avez plus besoin d'installer une Steam Link en plus comme appareil à connecter sur votre TV. Ça marche qu'avec les réseaux 5 GHz, les réseaux Wi-Fi 5 GHz, donc il faut que ça soit quand même relativement moderne. On peut connecter les manettes, la manette Steam Controller ou les manettes Made for iPhone, MFI, pour l'écosystème iOS ou Apple TV, ou bien sûr, c'est beaucoup plus libre sur Android, on peut connecter, je pense, les manettes qu'on veut, plus ou moins. Mais c'est pas mal, ça. Moi, je suis assez intéressé par ce type de truc. Ça marche qu'à la maison, hein, pas en mobilité totale, mais quand même, ça peut être utile.
Ah oui, moi j'ai une Apple TV, j'en suis très content de ça, pour me dire que je peux y jouer tranquillement sur ma télé de salon sans passer par un câble HDMI qui part de mon ordi pour le connecter, tout en un truc facile plug and play, ça peut être vraiment top quoi.
Oui.
C'est vraiment le petit truc qu'on n'avait pas vu venir qui sort bien. Et ouais, ça évite de s'acheter un Steam Link quoi, finalement. On a tous un Steam. On peut tous avoir un petit Steam Link à la maison, donc c'est bien.
Et le Steam Link, bah déjà, il le vendait à, je ne sais plus combien, 5 euros pendant les deux dernières saisons de soldes sur Steam. Maintenant, on comprend pourquoi. Hein, c'est ce qu'on avait. Moi, j'imaginais qu'ils allaient sortir soit un nouveau modèle, soit carrément le discontinuer. Bah là, on comprend ce qui s'est passé. Et en fait, moi, j'ai un Steam Link, mais c'est juste que je ne l'ai pas branché parce que j'ai trop de machines déjà branchées sur la télé. Donc là, ça utilise une machine déjà branchée. Si ça fonctionne, alors il faudra voir s'il n'y a pas du tout de lag. Mais encore une fois, pour les jeux solo, ça peut marcher, quoi.
Ah, ça, c'est le gros problème des gamers, le nombre de prises HDMI sur une télé.
Ouais,
hein.
Exactement.
Je suis pas non plus le client visé parce que moi j'ai mieux, j'ai le Shadow et pour moi ça peut pas, enfin ce serait faire un pas en arrière en fait.
D'accord. Toi tu utilises. Oui, mais le Shadow il est pas branché sur ta télé, si? Ah oui, t'es peut-être branché directement. Ouais.
Tu peux avoir, si ta télé est compatible Android, tu as ton app Shadow sur ta télé. Il y a l'app Apple TV qui est en développement, qui n'est pas sortie, mais les apps iOS sur iPhone et iPad sont pas officiellement sur le store, mais sont en bêta.
En test,
et,
ouais.
On y a accès. Sur Android, c'est déjà le cas. Et l'avantage, c'est que... par rapport au Steam Link, en dehors de chez soi, ça marche.
Oui, effectivement.
Pareil, les manettes MFI, tout ça, ça fonctionne bien. Et...
Ouais, voilà. Moi, je dirais que effectivement, c'est pas exactement le même cas d'usage.
Non.
Moi, j'ai plein de jeux sur Steam auxquels j'aimerais bien jouer sur ma télé. Et voilà, et là, ça marche direct, quoi.
Mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu restes dépendant de ta machine, à savoir si ta machine n'est pas assez puissante.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Mais bon, le Shadow coûte aussi l'abonnement mensuel, etc.
Oui,
c'est une autre
affaire,
quoi.
C'est ça.
Des jeux mis à jour, alors il y a d'une part No Man's Sky qui va arriver sur Xbox, la période d'exclusivité sur PlayStation est terminée, et pour fêter ça, ils vont en plus faire une grosse mise à jour pour le jeu sur Xbox et sur PlayStation, en amenant le vrai multijoueur qui va permettre d'explorer l'univers avec des amis. Enfin, on n'est pas seul dans notre univers dédié. Et on va pouvoir faire aussi des dogfights, etc. Enfin bref, c'est une vraie mise à jour multijoueur qui arrive enfin sur ce jeu. Ça va arriver en juillet. Et on a aussi une mise à jour de Sea of Thieves qui... cette mise à jour est un petit peu plus modeste. C'est du coup un petit peu de contenu supplémentaire. Mais c'est marrant que les deux arrivent en parallèle, on va dire, parce que c'est un petit peu No Man's Sky, c'est Sea of Thieves dans l'espace et Sea of Thieves, c'est No Man's Sky sur les mers. Sauf que No Man's Sky a quand même eu plusieurs années pour étoffer fait son contenu, donc ces jeux sont mis à jour. Je sais pas si vous avez été fan des jeux, si vous l'êtes vous avez plus de contenu qui arrive si vous l'avez déjà, et surtout No Man's Sky sera disponible sur Xbox One, donc vous pouvez aller le découvrir.
Mais c'était marrant parce que No Man's Sky, quand il a été présenté à l'E3 il y a 2 ans je crois déjà,
oula, mais plus que ça, No Man's Sky c'est,
ça,
il est sorti il y a 2 ans je pense.
Ouais. J'avais suivi le truc, c'était pas moi la cible, mais là je m'y suis réintéressé et c'est plus le même jeu du tout. Hein. C'est,
ah non,
c'est
mais ça a plus
de
rien
voir
à voir.
Comment ça a changé et du coup là il m'intéresse.
Ah oui, écoute, avec cette mise à jour de juillet, effectivement, ouais. Ça pourra peut-être être le moment de s'y réintéresser. Moi je l'avais acheté, j'avais été quand même très déçu. Même si je m'attendais à être déçu, j'avais quand même été relativement déçu. Peut-être qu'en juillet, je le relancerai. Effectivement, ça peut valoir le coup de replonger dedans. Surtout que je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont acheté, qui ont joué un petit peu et puis qui l'ont abandonné. Là, avec la nouvelle mise à jour, ça fait l'opportunité pour plein de monde d'aller y rejeter un coup d'œil.
C'est typiquement mon cas. Moi, je l'ai complètement délaissé parce que j'en étais très déçu. Après, il y a eu plein de mises à jour depuis quand même.
Ah,
Apparemment,
mais
je vais être
plein,
plus,
oui, il y en a eu deux ou
plus
trois
humaine du
énormes,
tout,
quoi.
ouais. Comme dit Jean. Ouais, moi, je pense pas que ça me suffise finalement pour venir. Je pense que je suis un peu passé. C'est trop tard maintenant. Par contre, Sea of Thieves, ouais, Sea of Thieves, je suis bien content qu'il y ait du contenu parce que c'est le
T'es
jeu
encore
où,
dessus.
ouais, où pas, je suis pas beaucoup dessus, mais ça fait toujours plaisir d'aller de temps en temps, un soir comme ça, avec quelques potes, aller piller les mers et toujours le jeu qui fait plaisir quand on arrive en plus à piquer les caisses d'autres joueurs. On a un petit côté, c'est pour exprimer son côté malsain, donc c'est assez agréable.
Bon, bah, il y aura un petit peu plus de contenu pour Sea of Thieves également qui arrive bientôt. Des dates annoncées pour. Alors, Dead Cell arrive en auguste, Dead Cell arrive en août et il sera disponible sur. Alors, il sort, hein, il est déjà disponible en Early Access, bien sûr, sur PC. Il sera disponible sur les consoles, y compris la Switch.
Oui,
Ce qui est
très bien.
une très bonne nouvelle parce que c'est typiquement le genre de jeu. Enfin, la moitié des jeux qui sortent aujourd'hui, j'espère qu'ils sortent sur Switch parce que sur Switch, tu peux y jouer dans ton salon et en portable. Donc, moi, je veux les jeux sur Switch et pas sur les autres consoles. Et donc, Dead Cell sera dispo sur Switch.
Ouais, tu vois, je parlais du Shadow tout à l'heure. Dead Cell, c'est typiquement le jeu où je suis bien content d'avoir mon Shadow parce que je peux y jouer sur mon téléphone avec ma manette et enfin en mobilité, et c'est vraiment un jeu qui est fait pour ça, quoi.
Ouais, complètement, ouais. Bloodstained sera disponible le 24 mai, c'est dans 3 jours. Oui, mais alors attention, c'est pas Bloodstained Ritual of the Night, c'est la version. Alors, vous vous souvenez, hein, Bloodstained, c'est le jeu de Koji Igarashi, qui est une sorte de Metroidvania très classique. Eh bien, cette version qui va être disponible bientôt, c'est la version 8 bits, qui était un des stretch goals du Kickstarter. Qui est une vraie version 8 bits de, bah, comme à l'époque. Alors, ça a été développé par Inti Create, je crois. C'est un partenaire avec lequel ils ont travaillé. Mais si vous allez voir le trailer, ah, c'est vraiment Castlevania sur Nintendo Entertainment System, quoi. C'est pas genre, on fait style rétro-prout, on fait des pixels, du pixel art, on fait style de 8 bits pixel art. Non, non, non. Là, c'est vraiment. Style exactement, on a l'impression de se retrouver transporté dans les années
On
80.
y est.
Ouais, complètement, c'est assez marrant. Et moi, j'ai eu la bonne idée d'aller remettre, enfin changer mes plateformes de choix parce que j'avais soutenu le jeu sur Kickstarter et j'ai mis la Switch. Et je crois qu'on avait jusqu'à hier. Donc, malheureusement, si vous l'avez commandé, que vous l'aviez demandé sur une autre plateforme, c'est trop tard pour changer. Désolé. Mais oui, c'est typiquement le genre de truc qui sera sympa sur Switch, je pense. Et puis sinon, je parle de ça juste parce que je suis un gros fan de jeux de combat. Arika a montré une bonne grosse dizaine de minutes de Fighting EX Layer, qui est un jeu qui ne va intéresser que les vieux de la vieille de Street Fighter EX. Et encore, et encore. Bon, c'est. Pardon, ça me fait bâiller. On va dire. Je suis pas certain d'y passer des heures non plus, mais ça m'a fait plaisir de voir un petit peu ces personnages de Street Fighter EX, comme j'en parlais à l'époque où le jeu a été annoncé. Quoi d'autre? Des jeux décalés. Shenmue 3 ne sortira pas cette année, j'ai envie de dire heureusement. Skull and Bones, le jeu de pirates d'Ubisoft, va lui aussi être décalé à l'année fiscale 2019. C'est Voilà, c'était un jeu qu'on avait vu l'année dernière. Metro Exodus est également décalé, mais on va en voir un petit peu à l'E3. Et Indivisible, le RPG, c'est un petit peu la coqueluche des indés, des fans de jeux indés. C'est un jeu avec des graphismes super attrayants, un RPG à l'ancienne, qui est lui aussi décalé pour 2019. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc voilà, il y a un petit peu de trucs qui sont décalés. On a vu, entre parenthèses, Stalker 2 sortir de nulle part et annoncer une date pour 2021. Ok, d'accord, bon, on savait qu'il était. Enfin, il était censé être encore en développement, mais voilà, il sortira en 2021. Il y a eu quelques autres trucs comme ça. Bon, des décalages, c'est un petit peu les gens qui font le ménage avant l'E3 pour que les gens ne s'excitent pas trop à l'E3 et du coup ne soient pas déçus. Et puis quoi d'autre? On dit au revoir au niveau matériel à la Vita. La production de cartouches Vita est en pas en arrêt, mais enfin, oui, si, ils commencent à arrêter les commandes. Donc, je crois que d'ici un an et demi, ils vont arrêter la production
de
cartouches.
Oui, avril 2019, je crois.
C'est ça.
Avril 2019, ouais.
Bon, ça, on pourra toujours acheter des jeux en dématérialisé sur la console, hein, si on y tient. Mais j'avoue que je sais pas, je sais plus quand j'ai sorti ma Vita pour la dernière fois. Donc,
Et quel dommage, n'empêche.
Ouais, c'est un petit peu du gâchis, mais bon. SNK a révélé que sa console mini serait une borne d'arcade. En fait, c'est une mini borne d'arcade toute petite avec un écran 3,5 pouces. 3,5 pouces, c'est la taille de l'écran du premier iPhone, pour vous donner une idée. On peut quand même brancher une télé dessus, mais il y aura 40 jeux dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Et puis, bah, le Kinect revient avec le service cloud de Microsoft, qui en fait c'est une série de capteurs qu'on peut utiliser, développer des applications pour. Ça sera pas pour les jeux, mais je voulais le mentionner quand même parce que Kinect était une belle histoire tragique de l'univers des consoles. Eh bien, le Kinect n'est pas mort et il revient en fait dans la plus belle forme que lui avait été donnée qui lui avait été donné par les bidouilleurs qui essayaient de faire des trucs avec. Et ben là, c'est une version du Kinect qui est dédiée aux bidouilleurs, en quelque sorte. Donc, ça sera juste des capteurs qu'on pourra utiliser pour plein de trucs différents. J'imagine peut-être pas énormément de jeux, mais ça fonctionnera bien avec le HoloLens, donc les lunettes autonomes réalité augmentée de Microsoft. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez ajouter quelque chose. Mais je vais juste mentionner pour les résultats financiers également, d'une part, du côté des Japonais, tout va bien. Capcom, ça, tout va très bien avec Monster Hunter World notamment. Bandai Namco, tout va très bien avec Dragon Ball. Square Enix, ils ont fait une nouvelle année record. Konami, bon, c'est surtout avec les jeux mobiles, hein, c'est quand même pas super jojo non plus. On va pas excuser Konami de tout ce qu'ils ont fait cette dernière année non plus. Mais ils vont très bien aussi niveau financier, donc tout le monde va bien.
C'est le vrai retour de l'industrie japonaise dans le jeu vidéo.
Complètement.
C'est l'année qu'il montre avec les profits, quand même.
À vrai dire, c'est le cas aussi pour l'industrie occidentale également. Même Electronic Arts, dont on aurait pu se dire qu'avec le scandale Battlefront 2, ils avaient souffert. Non, tout va bien. Mais je voulais en parler également. C'est marrant parce que on a vu Cliff Bleszinski se planter complètement avec Bosky Productions, qui avait fait Lawbreaker. On en a parlé en fait à l'épisode précédent et on se disait « Oh, Lawbreaker n'a pas marché, c'est dommage ». Mais ils ont sorti Radical Heights, qui c'est une sorte de tentative dans le Battle Royale, mais qui a suffisamment pas bien marché pour que en fait le studio doit fermer la porte. Là, tout de suite, ça y est, ils ont fermé. Bleszinski l'a annoncé il y a quelques jours, et donc Radical Heights, ça, c'était un petit peu étrange, et j'avais mentionné le fait que ça me paraissait bizarre comme jeu sorti après 4 mois de travail et qui n'était pas fini, mais enfin super early access. C'était la dernière tentative du désespoir, quoi, et ça n'a pas marché pendant un mois, donc ils ont dû fermer la porte. Et c'est un rappel aussi du fait que oui, même si tous les éditeurs se portent très très bien, le jeu vidéo, c'est pas un business facile et on comprend un petit peu pourquoi les éditeurs essayent systématiquement de faire des paris sûrs, parce que tu investis tellement d'argent, tu peux tellement te planter que une ou deux erreurs ou trois erreurs d'affilée, ça y est, tu dois mettre la clé sous la porte, quoi. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Cliff Bleszinski, qui avait tout pour réussir. Un grand nom de l'industrie, un grand designer qui a amené des financements conséquents, qui a amené une attention à ce qu'il faisait conséquente aussi, donc il n'avait pas besoin de se faire connaître, il était déjà connu et ses jeux ont reçu l'attention qui était nécessaire pour pouvoir réussir. Et les jeux, le pire, c'est que les jeux étaient même pas mauvais, enfin en tout cas Lawbreakers était même pas super mauvais, il a peut-être raté sa cible ou raté son époque, mais le jeu était pas super mauvais, et malgré ça il s'est planté lamentablement. Donc c'est juste pour mentionner, pour montrer à quel point le business du jeu vidéo, même si aujourd'hui ça va bien, on n'est jamais à l'abri d'un plantage magistral qui peut être dangereux demain, quoi. C'est un peu triste pour Bleszinski. Et puisqu'on parle des résultats financiers, pendant son call aux investisseurs, Electronic Arts a laissé glisser un chiffre qui suggère, alors ils ont dit on a 103 millions de consoles potentielles pour nos clients. Et 103 millions, ils parlaient de PlayStation plus Xbox. Et comme on sait qu'il y avait, il parlait de la fin de 2017, comme on sait qu'il y avait 73 millions de PlayStation à ce moment-là, on peut en déduire qu'il y avait 30 millions de consoles Xbox vendues, ce qui est vrai, ce qui est même en dessous de ce que j'imaginais, moi, comme marché installé de la Xbox One. 30 millions, c'est pas énorme. Je pensais qu'ils étaient un petit peu au-dessus de ça. Les analystes de mes amis, Daniel Ahmad et Oscar Lemaire, me disaient, ouais, enfin, plus de 35 millions, comme on l'estimait au milieu de l'année dernière, c'est les estimations optimistes. Bah, visiblement, oui, c'était effectivement optimiste, puisque 30 millions en fin d'année semblerait être ce qui a été distribué. Bon, ça reste honorable, hein. Il y a quand même, c'est un marché qui est conséquent, mais on voit que si Nintendo continue sur sa lancée, il pourrait avoir atteint un chiffre relativement comparable à ça en 2 ans. On verra où ils en sont, mais donc, bon, bref, c'est pas la peine de beat a dead horse, comme on dit en anglais, d'enfoncer des portes ouvertes. La Xbox One, c'est pas aussi bien vendu que l'aurait espéré Microsoft. C'est juste que 30 millions, c'est un chiffre qui est encore plus bas que ce que je pensais, quoi. C'est peu. Et on va conclure avec un petit mot sur Fortnite, puisqu'on ne peut pas ne pas en parler. Il est disponible désormais sur les... Enfin, oui, sur mobile, ça fait un moment. Il devrait arriver bientôt sur Android également.
Cet été.
Deux choses. D'une part, j'ai joué un petit peu avec Infinity War, l'event avec Thanos qui est disponible ce mois-ci. Et je voulais dire à quel point... La puissance de feu de Epic est incroyable, parce qu'ils ont fait prix de vitesse PUBG, mais ils sont tellement inventifs et rapides dans les différents modes de jeu, dans la manière d'encourager les gens à jouer tout le temps. Enfin, je comprends aujourd'hui pourquoi il a tellement plu, et bien sûr le fait qu'il soit free-to-play, disponible sur toutes les plateformes, qu'il ait plu aux gamins. C'est quand on voit PUBG qui se traîne à mettre des mises à jour une fois de temps en temps. Alors, c'est pas du tout le même genre de jeu, etc. Dans le Battle Royale, ils sont très différents, mais il n'empêche, la réactivité de Epic est quand même hyper impressionnante. Et c'est vrai que Fortnite, c'est une... Enfin, comment dire, même si c'est une carte, et c'est le principe du Battle Royale, donc c'est quand même le cas dans les autres jeux aussi, mais... Il y a plein d'endroits différents à aller dans cette carte. On a une histoire qui se construit à chaque partie, un petit peu comme sur un MOBA. Enfin, je suis quand même... C'est pas mon genre de jeu, mais je suis hyper impressionné par le travail que fait Epic sur Fortnite, quoi. Et du coup, je voulais te poser la question. Toi, Jean, qui est enseignant, tu confirmes... Enfin, on l'a confirmé à chaque fois que quelqu'un en parlait, mais c'est vraiment tout ce dont parlent les enfants dans les cours de récré, quoi.
C'est ça. En quelques semaines... parce que moi, ils savent que je suis un gamer. Et donc, en quelques semaines, les questions sont passées de « vous jouez à quoi ?» à « vous jouez à Fortnite ?» Et ils sont autant à regarder qu'à jouer. Et c'est quand même assez phénoménal, parce que...
tu dirais, quand est-ce que ça a commencé, en fait ?
Quand est-ce que ça a commencé? Attends, là on est en juin. ça a commencé, je dirais, janvier, février.
D'accord. Et en quelques semaines, s'est mis à y jouer, quoi.
Disons que c'est monté tout doucement jusqu'à un point où c'est parti d'un coup. Et c'est là où ça a touché vraiment tout le monde. Je vois mes collègues qui ont des enfants qui sont en âge de jouer à ça, m'ont parlé de Fortnite aussi en salle des profs et
est-ce que justement il y a des préoccupations à ce niveau des parents ou des autres enseignants? C'est quand même un jeu où on se tire dessus tout le temps, même avec le look cartoon.
Ouais. Oui, non, mais justement c'est
genre, est-ce que les enfants de 8 ans ils jouent, quoi?
Alors je sais pas, c'est pas mon
classes,
mon
ouais.
domaine de voilà, moi ça commence à 10-11 ans. À 10-11 ans ils y jouent, oui. Mais c'est pas trop une préoccupation de se tirer dessus, parce qu'effectivement il y a ce look cartoon et il y a une certaine bonne humeur dans Fortnite qui fait qui fait que bah non, c'est voilà, c'est un amusement,
ouais, c'est plus
comme un
marrant
autre.
Que ouais, d'accord,
ouais, mmh. Voilà, c'est un amusement comme un autre. Par contre, je suis très très curieux d'arriver à la release des prochains FPS, là, les Battlefield et Call of, pour voir si Fortnite, qui est gratuit, aura un impact sur les ventes.
Mmh. Mais est-ce
c'est
que
une
est-ce
grande
que
question que je me pose.
Est-ce que c'est tes élèves jouaient au truc genre Call of Duty avant?
Clairement.
Ah
clairement.
Oui, d'accord. Ouais. Enfin oui, c'est ce que tu disais
autant,
tout à l'heure, mais
pas autant. Voilà, pas autant. Ils avaient chacun leur style de jeu et voilà. Alors en grande
alors
majorité.
Que maintenant tout le monde est sur Fortnite, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Avant c'était des FPS, c'était GTA, c'était des jeux d'aventure. Il y avait de tout. Maintenant, non. Maintenant, c'est monsieur, vous jouez à Fortnite.
D'un côté, on préfère pas mille fois qu'ils jouent à Fortnite que des gamins de 10-12 ans jouent à des GTA.
Moi, exactement.
La balance est vite. Est
voilà,
vite
voilà.
Cassée, quoi.
Voilà. Et je reviens sur l'émission que j'avais faite, dont je parlais en début d'émission, là, sur la jeunesse et le jeu vidéo. Et juste, sans le faire exprès, je l'ai faite à peu près à ce moment-là, à ce basculement. Et à mon grand étonnement, donc les jeunes qui étaient là, qui sont absolument pas représentatifs de toute la France, mais au moins j'avais un panel de jeunes qui étaient là, parce que c'est une émission qui avait été faite en public, étaient vraiment hyper conscients du fait que c'était bien mieux de jouer à ça qu'à GTA, vis-à-vis de l'âge, tout ça. Quoi.
Ah, les gamins eux-mêmes s'en
rendaient compte. Ouais. Ouais.
D'accord, intéressant. Mmh. Ok, bah écoutez,
la
fièvre
en night, hein, c'est assez impressionnant. Mais j'avais lu un article sur Le Monde où Epic, où ça déclarait qu'ils employaient des psychologues, et notamment une psychologue française qui témoignait dessus. Et c'était super intéressant parce que tout est calculé en fait pour que le jeu soit agréable, que ça soit la vitesse de la pioche sur les arbres et la production de. Ils ont remarqué en fait au début que la pioche n'allait pas assez vite pour ramasser les minerais qu'il faut. Enfin, les ressources qu'il faut, le bois, la brique ou.
En fait,
le métal,
que l'impression, ce qu'elle disait, c'est que l'impression, les joueurs avaient l'impression de ne rien faire en frappant la pioche sur le bois ou le métal ou ce que c'est. Et ils n'ont pas changé la vitesse, ils ont changé le nombre de petits morceaux de bois qui sortaient du truc.
Oui, c'est ça.
Pour donner ouais, c'était très intéressant, effectivement. Il y a eu un gros travail avec une psychologue, non pas sur des trucs qu'on pourrait critiquer, mais simplement pour concevoir l'interface et les modèles en jeu, etc., pour que ça soit accessible, facile à comprendre tout de suite.
Oui, c'est du game design.
Ouais, c'est plus du game design. Alors peut-être qu'ils ont aussi mis les pieds dans d'autres domaines dont on pourrait parler, mais...
ce que j'aime bien, ce que je trouve dans ce jeu assez fascinant, c'est qu'ils arrivent à, un petit peu comme certaines séries, comme la Casa de Papel actuellement, où on entend les reprises de Bella Ciao partout, ils ont aussi ce côté avec les danses notamment du jeu, qui s'inventent ils ont en fait une mythologie propre au jeu qui est reprise partout dans
le nombre
de vidéos virales qu'on voit.
Ouais.
Voilà, moi je suis allé voir un concert là récemment de The Avenger, il passait à la Foire Expo de Bordeaux, et du coup il y avait des gamins qui dansaient, mais ils dansaient les mouvements de Fortnite. Rien que ça montre qu'il y a un truc derrière en fait qui est au-delà du jeu vidéo et qui fait que c'est pour ça qu'on revient. Oui. Comme LOL avait un petit peu, League of Legends avait ça peut-être à son époque aussi, quand il y avait eu la fureur de LOL à une époque.
Mm.
Voilà, il y a une certaine mythologie au jeu en fait. C'est ça qui est drôle.
Ouais. C'est vrai que
il y a un joueur de foot qui a fait pareil, je sais plus lequel, le foot. C'est
oui,
le
quand
foot,
il a célébré un but, oui.
Voilà, exactement. C'est ça, ouais.
Les gamins devaient être fous. Donc voilà, bah, on pourrait parler.
Si, alors, juste, si les danses de Fortnite pouvaient remplacer le dab, ouais, moi, je
ça
veux bien.
Ça
ouais.
Très bien.
Tout à fait.
On pourrait aussi parler, tiens, du très intéressant Battle Pass, mais on ne va pas le faire parce que ça serait une longue discussion et j'aurais des choses à dire, mais c'est un business model qui est assez intéressant, le Battle Pass. J'ai des préoccupations sur certains aspects du business model de Fortnite, mais c'est vrai qu'il y a quand même des manières d'approcher le truc qui sont assez innovantes et assez intéressantes, donc on en parlera peut-être un jour. Et bah écoutez, c'est tout, voilà, on arrive à la fin de l'émission. C'était un épisode bien rempli et bien agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez passé un bon moment et que vous en voulez plus, toujours plus, peut-être que vous pourriez aller retrouver nos co-animateurs là où ils sont sur internet. Dites-nous où ça pourrait être. Commençons par Hugues, par exemple.
Alors oui, alors sur Twitter, faut que je me mette à retweeter. J'ai du mal à tweeter, à m'obliger à tweeter. Mais c'est sur @CaptainHugues, tout simplement. Hugues à l'anglaise, hein, HUGH, là pour le coup.
Bon, on mettra les liens dans les notes de l'émission.
Oui, j'imagine, oui. Et sinon, c'est sur la chaîne de Studio Renegade, sur Twitch, écrit comme vous l'entendez. Et c'est moi j'ai depuis peu une petite émission de 8 à 10 le matin qui est une revue de presse. Tout ce qui se passe un peu, c'est pop culture, mais je m'autorise aussi à parler de tous les sujets d'actualité. Et voilà, et sinon en stream sur la chaîne de temps en temps. Voilà.
Très bien, merci Hugues. Jean,
dis-nous. Oui, alors moi, on me retrouve sur papapodcast.fr où je mets mes émissions, donc Papa à quoi tu joues, pour les gens qui aimeraient garder un pied dans le jeu vidéo, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Donc on traite l'actu de... d'un point de vue sociétal, on conseille des jeux et on a très souvent une rubrique de l'invité. Et puis dans Papa à quoi on joue, où là, c'est un podcast où on conseille des jeux, des activités à faire en famille. Et donc ce mois-ci, on a en invité Médoc du Cozy Corner, où on vous apprend à jouer en famille avec des cartons, parce qu'on peut être pauvre et s'amuser aussi.
Très bien. Bon, ben merci beaucoup. Merci Jean. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. C'est NotePatrick partout. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech sur FrenchSpin.fr. Le prochain épisode, ça sera l'épisode de l'E3. Alors, il sera, on attendra un petit peu que l'E3, les conférences soient passées, donc il sera un ou deux jours en retard. Mais on aura tout un résumé de tout ce qu'il faut retenir de l'E3. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la recommander à vos amis. C'est un super moyen pour nous filer un coup de main. Vous pouvez dire à vos amis qui aiment le jeu vidéo, mais attends, t'écoutes pas le rendez-vous jeu. Mais le rendez-vous jeu, c'est une super émission qui te résume tout ça toutes les deux semaines de manière sympathique et agréable. Bon, je vous laisse vous faire votre propre script, hein. Mais recommander l'émission, c'est un bon moyen de nous faire découvrir par d'autres auditeurs potentiels. Donc, si vous l'appréciez, eh ben, parlez-en autour de vous ou sur les réseaux sociaux ou en vrai, au boulot ou à la maison, ça serait sympa de votre part. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans un petit peu plus de deux semaines pour le gros épisode de l'E3. Ça va être la grande fête. Moi, j'ai très très hâte. C'est un petit peu la Coupe du monde de foot, mais pour les joueurs, et c'est tous les ans. Donc, moi, j'ai hâte. Allez, on vous fait des bises et à très très vite.
Ciao.